Carnet de campagne, bonjour. Nous sommes pour cette dernière journée encore dans le département du Loiret. Tout d'abord, une mention spéciale pour une association qui agit dans toute la région au profit du reboisement des forêts publiques comme privées au nom du développement durable et de la réduction des gaz à effet de serre. La forêt, dans sa diversité, est menacée de régression dans les 50 prochaines années faute de nouvelles plantations. Ces plantations annuelles ont chuté de moitié depuis les années 90, apprend-on au contact de l'association Duramen. Duramen, c'est le nom donné aussi au bois de cœur ou bois parfait qui désigne la partie interne de l'arbre. Duramen regroupe les professionnels du bois, les propriétaires, les particuliers, les collectivités autour des enjeux d'une forêt régénérée qui représente 450 000 emplois locaux en France et qui concerne 2600 entreprises dans notre région Centre-Val-de-Loire. On retient d'ailleurs qu'une forêt jeune et bien gérée captera plus de CO2 qu'un massif ancien et mal exploité. La leçon est bonne à retenir et l'action est possible avec ce type de structure qui avait lancé en octobre dernier une campagne de financement afin de réaliser directement des plantations d'arbres. Duramen.org pour l'adresse. Et si nous communiquions par la musique, imaginez une musique qui dégage sérénité, bienveillance, calme et poésie. Histoire et chant de la terre. Prenons l'exemple de la musique baroque qu'incarne si bien l'ensemble La Rêveuse qui a trouvé refuge depuis bien longtemps à Orléans. C'est avec Florence Bolton que nous ouvrons cette édition en complément de l'article publié dans les pages numériques de La Vie. Puis le Loiret, département très tôt éveillé à l'usage de la paille en matériaux de construction. Illustration tout à l'heure avec Approche Paille présentée en seconde partie par Émeric Prigent.
France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Florence Bolton, bonjour.
Bonjour Philippe.
Florence, vous êtes co-directrice de l'ensemble La Rêveuse, ensemble de musique baroque. Vous avez créé avec Benjamin Perrault. Alors vous êtes gambiste, Florence. Benjamin voilà. Est luthiste et théorbiste. Alors le théorbe, c'est un grand luth hein, en fait.
Voilà, un luth avec un grand manche ouais. Qu'on a joué principalement au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il a eu une existence... Ouais. Pas très très longue, on va dire, ouais. Mais fondamentale.
Et La Rêveuse, c'est le nom d'une pièce de Marin Marais ?
Tout à fait, qu'on vient d'enregistrer. En plus, le disque est sorti en janvier dernier chez Miraret. C'est une pièce qu'on a jouée longtemps tous les deux, mais un jour on s'est dit, mais La Rêveuse, voilà, puis cette dimension du rêve, moi elle m'est chère, parce que je pense que sans rêve, on n'avance pas.
Donc en 2004, vous venez à Orléans avec un projet de travail construit et durable ou pas du tout ?
Alors pas du tout, on était à Orléans, on s'était installé en association et puis un jour Benjamin dit je vais quand même aller voir à la DRAC, on avait besoin d'argent pour enregistrer un disque où on était un peu plus nombreux que d'habitude. Et puis la conseillère musique, Françoise Turin de l'époque, le reçoit et dit mais vous êtes fou, il faut faire un dossier. Donc voilà, ça a commencé comme ça, puis après on a été aussi soutenus par la région, Centre-Val-de-Loire, un peu la ville d'Orléans qui nous alloue des bureaux, donc ça c'est vraiment super. Et puis, on a du mécénat maintenant de la Société Générale et de la Fondation Orange. Mmh.
Et même une reconnaissance du ministère de la Culture.
Oui, le patrimoine européen 2018.
On essaie de comprendre aujourd'hui l'évolution de la musique baroque auprès d'un large public, avec le passé d'œuvres diffusées grâce à William Christie, grâce à Jordi Savall. On se dit aujourd'hui, c'est une musique qui se porte bien. C'est pas tout à fait le cas.
C'est-à-dire que effectivement, à l'époque de William Christie et Jordi Savall, dans les années 80-90, il y avait tout un public. Ça a été vraiment un type de musique qui a eu du succès, notamment dans les conservatoires. On a ouvert plein de places de viol de gambe. Tout le monde voulait jouer La Rêveuse. Et maintenant, ça retombe un peu. Et voilà, l'urgence, c'est peut-être de renouveler aussi le public qui s'y intéresse. Et juste par le concert, c'est peut-être pas suffisant. Maintenant, il faut trouver d'autres formes. Ça se fait déjà. Hein. Il y a quand même, ça évolue, mais on peut toujours faire mieux.
Et vous sentez des difficultés encore aujourd'hui en Centre-Val-de-Loire à essayer de répandre les actions culturelles et les actions musicales comme vous le faites aujourd'hui?
Je dois dire que c'est pas très facile. Alors il y a des grands centres. Nous on joue à la scène nationale d'Orléans. On travaille avec la programmation de Chambord, de Valençay, de Noirlac. Voilà les grands centres comme ça. Et puis une fois qu'on sort de là, effectivement, c'est la musique ancienne, c'est compliqué. Et alors curieusement, on est une des régions où il y a le plus de musique ancienne en résidence. Il y a beaucoup d'ensembles à Tours. On est deux ensembles à Orléans officiellement. Et nous, finalement, on a d'autres formes qui tournent en région centre. On a des spectacles jeunes publics. On a créé à Orléans des ateliers de musique ancienne qui sont des rendez-vous comme ça pour les amateurs de musique qui ont envie de travailler le répertoire. Et puis on organise aussi des conférences, des concerts qui sont gratuits et ouverts à tous. Ça croise un peu les publics.
Alors, désormais, vous allez utiliser, entre autres pour toucher d'autres publics, une salle de spectacle mobile, c'est l'Opéra Bus. Il y a un soutien sur la plateforme Ulule, si vous voulez participer à cette belle expérience que l'on a découvert lorsque l'ensemble baroque Harmonia Sacra, dans le Nord-Pas-de-Calais, est allé à la rencontre des curieux de la musique baroque par ce bus opéra.
Oui, tout à fait. Alors nous, on a rencontré ce bus tout à fait par hasard, parce que le festival de l'Anvélec, qui est en Bretagne, l'avait loué pour fêter ses 30 ans et nous ont demandé à Benjamin et moi de faire les séances dans ce bus. Et c'était l'occasion de croiser des publics complètement étrangers, souvent au monde de la musique ancienne. Et on s'est dit, mais ce travail, il faut le continuer, il faut que nous-mêmes, on puisse louer ce bus et organiser une tournée chez nous, autour d'Orléans et dans toute la région. Donc ça va se passer en novembre 2018.
Si vous voulez découvrir, et je vous y invite grandement, le travail, les créations de l'ensemble La Rêveuse, c'est ensemblelarêveuse.com. Il y a une page Facebook également et opéra-bus sur la page Ulule pour participer à la circulation de cette salle mobile en région Centre-Val-de-Loire. J'espère que vous allez retoucher un nouveau public.
Puis normalement, on en refait une en 2019. Donc si ça intéresse des partenaires financiers ou des programmateurs en région centre, surtout, qui n'hésitent pas à nous contacter pour 2019.
Merci Florence.
Merci beaucoup Philippe.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Les carnets avaient salué dans les années passées le travail réalisé par les quelques 200 bénévoles de l'association Mardiéval. Mardiéval comme Mardier, une commune rurale à 12 km d'Orléans qui continue à défendre les particularités environnementales plutôt exceptionnelles qu'entourent ce bourg. Nous sommes à la fois dans le périmètre du Val-de-Loire classé au patrimoine mondial par l'UNESCO et dans un site Natura 2000 labellisé par l'Europe. Son avifaune est protégé pour son caractère d'exception, à commencer par le balbuzard pêcheur qui fait l'objet d'un suivi de la part de l'association. Manque de chance, elle se bat depuis 20 ans contre des projets de contournement des villages et des projets de nouvelles traversées de la Loire qui transperceraient ces milieux naturels. Ces projets avancent désormais plus vite qu'on ne l'imaginait, ce qui me fit dire d'ailleurs à l'époque de l'entretien avec les responsables de l'association que nous étions, dans un beau mardier. Leur coût est évalué à ces travaux et projets à 100 millions d'euros. Le rapace ne vaut pas cher sur la balance, en effet. Le bloc de l'association s'appelle le Castor Énervé, à l'image de l'échauffement des esprits à cet endroit. Vous y trouverez d'ailleurs un lien avec la Balbucam, une webcam d'observation du balbuzard. Le site, c'est le-castor-énervé.fr. Émeric Prigent, bonjour.
Bonjour.
Émeric, vous êtes responsable du développement et des formations au sein de l'association Approche-Paille. Approche-Paille, alors on traduit par Association pour la promotion et la construction d'habitats écologiques en paille, créée en 2005, donc vous êtes une des premières structures autour de cette éco-construction.
Oui, tout à fait, c'est le début des années 2000, c'est vraiment le tout début de la structuration de la filière paille. Et ensuite, en 2006, donc Approche-Paille et d'autres organisations ont créé le réseau français de la construction paille, qui est aujourd'hui le réseau national qui regroupe tous les acteurs de la construction paille.
Ouais. Avant de faire un état des lieux du développement de la construction paille, parce qu'on en parle de plus en plus, c'est un bon débouché pour l'agriculture, ça?
Tout à fait. Ça permet de valoriser un sous-produit agricole qui aujourd'hui est très peu utilisé, en tout cas. Même si 100% des habitations construites en France tous les ans étaient isolées en paille, on ne consommerait que 10% de la production de paille en France. Donc il n'y a pas du tout de problème de concurrence par rapport à la ressource avec l'élevage ou d'autres usages de la paille.
Alors les associations ne manquent pas aujourd'hui en France depuis que vous vous êtes créé en 2005, de promotion de la construction bois-paille par exemple, mais la paille peut être utilisée aussi en isolant.
Voilà, c'est ça en fait. La majorité des constructions aujourd'hui, ce sont des structures bois. Et on utilise la paille en tant qu'isolant et support d'enduit. Ça, c'est aussi une particularité de la paille, c'est que c'est un support végétal, mais sur lequel on peut enduire directement.
Ouais. Et vous vous êtes battu, vous, avec le réseau français de la construction en paille, pour valider et rendre conforme auprès des assurances ce type de construction. Maintenant, il n'y a plus aucun souci.
C'est ça. Depuis 2012, il y a les règles professionnelles de la construction en paille qui sont validées par les autorités du bâtiment. Aujourd'hui, construire en paille est considéré comme étant de la construction normale, en fait.
Est-ce que ça facilite l'autoconstruction ?
Avant que ça se professionnalise, justement, c'est l'autoconstruction qui a porté le développement de la construction paille. La part des autoconstructeurs est toujours très forte parce que justement, oui, c'est un matériau qui est simple et facile d'utilisation, qui est sain, beaucoup plus adapté pour l'autoconstruction.
Ouais. Et quel réseau vous avez mis en place, vous, responsable du développement et des formations dans le Loiret ?
Donc nous, on a le siège social d'Orléans dans lequel on a une salle où on fait des formations régulièrement. Et après, c'est plutôt un réseau au niveau de la région centre où on travaille notamment avec la Ligue de l'enseignement du Cher.
Oui.
On forme les jeunes qui sont en formation professionnelle du bâtiment, donc du CAP, Bac Pro, BTS, qui viennent pendant une journée pour découvrir ce que c'est que le matériau paille, parce que tout ça, ça fait pas partie des programmes de formation officiels nationaux. Donc on a mis en œuvre ça sur la région centre, avec les pouvoirs publics qui ont bien vu l'intérêt du développement de ce matériau dans cette région très céréalière.
Et est-ce qu'il y a un intérêt financier pour les acquéreurs de maisons paille ?
Oui, dans le sens où c'est l'isolant le moins cher du marché, qu'à performance égale, il y a rien qui peut arriver à ces prix-là. Mais en fait, il faut quand même relativiser parce que le coût des parois, c'est entre 15 et 25% du prix de la maison, quoi. Donc du coup, même si on change un isolant moins cher, l'isolant, c'est peut-être entre 2 et 5% maximum du prix de la maison. Donc c'est pas non plus ça qui va révolutionner le prix de la maison, quoi.
Et 13 ans après votre création d'approche paille, est-ce que vous voyez un regain d'intérêt de la part des constructeurs pour ce type de matériaux ?
Oui, je trouve qu'il y a eu vraiment un point de pivot en 2012-2013. Il y a eu plusieurs bâtiments exemplaires qui sont sortis, plus les règles professionnelles qui sont sorties en 2012 aussi, et la réglementation thermique qui a changé au 1er janvier 2013. Ce qui fait que la construction paille a du coup eu vraiment sa place.
Oui. Et on avait présenté il y a quelques années, Aymeric, un bailleur social qui avait fait construire dans les Vosges un immeuble de 8 étages en paille, qui était d'ailleurs, oui, je crois, l'immeuble le plus haut dans ce matériau en Europe. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, on peut faire toutes les dimensions.
Tout à fait, oui. Voilà. Bah, aujourd'hui, celui-là, c'est toujours le plus haut bâtiment isolé en paille du monde. Quand il s'est construit, c'était même le plus haut structure bois d'Europe.
Ah oui.
Après, en termes de surface, il y a deux écoles en Ile-de-France qui sont entre 5 et 6 000 mètres carrés, à Issy-les-Moulineaux et à Montreuil. Il y a des grands bâtiments, quoi.
Est-ce que ça peut être une solution aux besoins de création de logements sociaux ?
Je pense que justement, c'est une très bonne réponse. C'est pour ça que l'immeuble à des Vosges,
oui,
le bailleur social, lui, ce dont il parlait, il disait que son intérêt, c'était que ses locataires aient le moins de charges d'énergie à payer. Tout ça, c'est du pouvoir d'achat gagné directement. Donc au contraire, je trouve que c'est vraiment une très très bonne réponse pour le logement social.
Absolument. Merci pour votre témoignage et bravo pour votre action, Aymeric. Approchepaille.fr, Approchepaille pour la page Facebook. Vous allez avoir le lien avec le réseau français de la construction paille, rfcp.fr. Et puis quelques liens aussi avec des bâtiments exemplaires. Merci, Aymeric.
Merci beaucoup à vous.
Nous resterons dans la même région, Centre-Val de Loire, la semaine prochaine, mais cette fois dans le département d'Eure-et-Loire. Merci à Agne Roux qui réalisait les carnets, à Joël Levert qui leur donnait du contenu. Merci aux techniciennes de France Inter qui leur donnaient du volume, comme aujourd'hui Raphaël Rousseau, Nicolas Stouff, l'assisté de Yann Paillerès, et le jeu des 1000 euros à Cléry Saint-André.